Ce que je voulais dire, c'est que cette disposition, elle s'appliquait déjà l'année dernière. Le fait que vous dites la taxe d'habitation ne doit pas diminuer. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que je vois, bon, on va citer la commune, Image de Marque, qui parle de ces taux d'imposition. Et je remarque, par exemple, qu'en 2018, ils ont baissé d'1% la taxe foncière bâtie et de 5% la taxe foncière non bâtie. À côté de ça, la taxe d'habitation n'a pas bougé. Cette année, la taxe foncière bâtie baisse de 3% et les autres ne bougent pas. Mais il y a quand même cet exemple en 2018 de baisse importante qui n'est pas du tout appliquée sur la taxe d'habitation. Alors, je ne pense pas qu'il soit en dehors des clous.
Je vous parle de la notification qu'on a eue des instructions pour 2019. On va chercher l'instruction de 2018.
Je vais vous remettre le document, si vous le souhaitez.
Il n'y a pas de souci, on se rapprochera des services de Marc-en-Barœul, il n'y a, y a aucun problème. Mais en tout cas, pour cette année, l'instruction que nous avons obtenue de la préfecture, c'est celle-ci. Donc, au vu de la note qui a été adressée par la DGFiP concernant la qualité comptable et le suivi des mesures qui est à presque 20, on est à 19,2, donc le travail des services est fait correctement. Alors moi, je ne prendrai pas le risque d'outrepasser les instructions ministérielles. Voilà. Donc, ce qui me permet de passer au taux des différentes taxes 2019, donc un maintien à 27,70 de la taxe d'habitation, une baisse d'1% de la taxe foncière, donc un taux à 30,25 qui passe à 29,95, et la taxe foncière non bâtie qui, de manière contrainte, reste à 55,24. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, y compris les opérations d'ordre, donc je vais surtout m'intéresser aux dépenses réelles de fonctionnement, donc un peu plus de 13 100 000 €. Donc les charges de personnel représentent à peu près, enfin en prévision, 60% du budget. Ensuite, les charges à caractère général, un peu moins de 23% à 2,9 millions. Les autres charges de gestion courante, les charges exceptionnelles et les charges financières. Au niveau de la section de fonctionnement, donc, nous souhaitons une évolution maîtrisée par rapport au budget 2018, donc 1,63%. Et au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, 1,13%. Donc on est dans les clous des prévisions. Et je rappelle bien, j'insiste sur les thèmes prévisionnels. Donc la masse salariale est majorée de 1,29%, soit 101 372 euros entre 2018 et 2019, en raison des évolutions de carrière, donc des avancements d'échelons et toutes les mesures que nous pouvons prévoir aujourd'hui, en sachant que, en ce moment, il y a une loi sur la fonction publique qui est en préparation, qu'il y a des compensations qui sont peut-être à l'étude du fait des gilets jaunes. Donc, celui qui sait me dire la somme exacte dépensée pareil en masse salariale pour l'année prochaine, c'est un devin, donc il s'appellera panoramique, je pense. Le niveau des dépenses courantes augmente de 30 796 euros, donc 1,06%. Donc les crédits alloués au fonctionnement des services sont limités afin de permettre la maîtrise des charges de fonctionnement. Donc oui, nous continuons dans la volonté de maîtriser nos charges courantes afin de pouvoir dégager des marges de manœuvre pour l'investissement face à un grand projet que tout le monde pour financer un grand projet, mais également pour ne pas augmenter la pression fiscale de nos concitoyens. Les autres charges de gestion courante, donc subventions, participation, indemnités, diminuent de 9 908 euros. Participation à la piscine des trois villes, moins 4 500. Mail politique du bruit, moins 5 000. Ce qui me permet de faire une légère aparté. Hier soir, il y a eu un comité de la piscine des trois villes et j'ai posé la question qui m'a été posée en conseil lors d'un conseil précédent. Il y a une évaluation qui va être bien effectuée concernant les avantages des travaux effectués à la piscine au niveau des consommations, donc que ce soit en kilowattheure ou alors en euros. Ce comparatif vous sera fourni soit en commission finance, soit en commission sport. Mais ce travail qui a été demandé, en l'occurrence par M. Ostrat, sera effectué et sera donné en commission. Répartition des dépenses de fonctionnement par famille. Donc, comme je l'ai dit pour le compte administratif, on le fait la même chose au niveau prévisionnel. Donc, vous voyez qu'on ne fait pas d'écart tellement important entre du réalisé et du prévisionnel au niveau des proportions. Là, le premier poste de dépense sera l'enseignement à 25%, ce qui correspond au niveau des proportions au réalisé. Ensuite, l'administration générale de la collectivité, sport jeunesse, la culture, l'aménagement urbain, les actions sociales, l'action économique, la sécurité, les relations aux usagers, la famille, toutes ces politiques, mais vous avez donc le détail qui est projeté et qui vous a également été envoyé dans les documents préparatoires au Conseil. Donc au niveau des recettes de fonctionnement, donc pour les recettes réelles de fonctionnement à ce jour, je dis bien à ce jour, au niveau des concours financiers de l'État, DGF, DSU et DNP, nous prévoyons une stabilité parce que nous n'avons pas eu de notification aujourd'hui de ces recettes. Donc c'est pareil, on ne peut pas vous dire quels seront les montants de chaque dotation. La maîtrise de la pression fiscale avec une diminution d'1% de la taxe foncière sur les propriétés bâties, actualisation des valeurs locatives, diminution des recettes de remboursement de personnel avec la fin malheureuse des contrats aidés. Ça aussi, c'est une chose que j'avais déclarée au ROB et nous allons le faire également avec le service du personnel. On va faire un sondage pour savoir le nombre d'employés titulaires actuels qui ont bénéficié des différents dispositifs d'État, que ce soit les TUC, que ce soit les emplois jeunes, que ce soit les contrats aidés. Et je pense qu'on verra que la ville de Lys, depuis des décennies, a toujours appliqué et a pris ses contrats dans une bonne optique et pas dans une optique de servir et de jeter les jeunes qui bénéficiaient de ces emplois. On prévoit également une augmentation des recettes de la CAF avec 47 000 euros en plus du fait du passage des mercredis récréatifs à la journée et l'augmentation des effectifs jeunesse. Là, je mets aussi un point d'alerte parce que des négociations qui sont toujours en cours avec la CAF et la CNAF, parce que l'État a besoin d'argent et selon les paroles de Madame la maire de Lille, il y aurait la possibilité que des activités, notamment le mercredi, ne soient plus financées par la CAF. Ce sont des choses à avoir en tête. Au niveau des recettes de fonctionnement, donc vous avez la répartition. Donc comme je le disais, pour le compte administratif, notre première source de recettes, de fonctionnement, ce sont les impôts et taxes, et qui, on les met en recettes réelles de fonctionnement, mais quand on déduit nos dépenses réelles de fonctionnement, nos impôts financent également l'investissement. Il ne faut pas le voir non plus que de façon carrée, divisée en quatre. Les impôts financent également l'investissement. Donc moins on dépense en fonctionnement, plus on peut investir et moins on emprunte. Moins on emprunte, moins on a de charges d'emprunt, donc moins on a de dépenses de fonctionnement parce que les charges d'intérêt se trouvent à être payées sur les dépenses de fonctionnement. Ensuite, donc, nous avons les dotations, les produits des services, les autres charges de gestion courante, les produits exceptionnels. Là, franchement, pareil sur les produits, savoir combien nous toucherons de produits exceptionnels, c'est compliqué, et les atténuations de charges. Les dépenses d'investissement. Donc nous prévoyons des travaux à hauteur de 3 738 300 euros prévisionnels, un remboursement d'emprunt qui, alors, sur ce coup-ci, est celui qui va se réaliser, parce que là, nous sommes certains de l'échéancier que nous avons chaque année au niveau des emprunts. Donc 1 115 000 euros de remboursement d'emprunt. Là, vous verrez que le taux d'exécution du remboursement d'emprunt, on va être, mais quasiment à 100%. Donc ça, parce que ça, on le sait. Ensuite, nous avons les acquisitions de matériel, les travaux comptiers et les acquisitions immobilières. Répartition des dépenses d'investissement par famille. Bon, bah là, je pense qu'il n'y avait pas besoin de projeter le camembert pour que tous les conseillers municipaux déclarent que la première famille d'investissement, ce sera l'enseignement. La part la plus importante, ce sera l'enseignement à un peu plus de 2 200 000 euros, donc 44%. Ensuite, nous avons donc le remboursement d'emprunt, l'administration générale de la collectivité, la sécurité, sport, jeunesse, culture, aménagement urbain. Donc voilà, c'est les grosses masses. Maintenant, je vais revenir un peu plus en détail. Donc là, vous allez voir rapidement défiler la liste des investissements sur le premier slide. Donc là, on est bien sur les investissements qui sont courants. Je vais faire après un focus sur les investissements un peu différents et peut-être un peu plus importants. Donc vous avez également sur la deuxième slide donc les différentes donc les travaux d'accessibilité qui sont courants, la menuiserie de la primaire Paul Bert qui n'est pas citée, mais voilà, il y a également des travaux dans l'élémentaire qui sont faits, l'aire de jeu du parc Maréchal, voilà, toutes ces choses-là sont budgétisées. Alors au niveau des recettes d'investissement, nous prévoyons que 87,56% seront des emprunts, donc 3 332 836 euros. Et c'est pour un équilibre, et je parie qu'on ne souscrira pas la totalité des emprunts, même si on demandait aujourd'hui de souscrire tous les emprunts, honnêtement, je ne prendrais pas le risque pour les deniers des Lissois de souscrire l'ensemble des emprunts. À moins, vraiment, qu'une unanimité du Conseil. Mais il y a quand même peu de chances qu'un citoyen souhaite que sa commune emprunte un maximum pour qu'après, cela se retrouve sur sa feuille d'imposition. Tout le monde est d'accord sur un prévisionnel maximum qui ne sera
plus... Je ne serai pas aussi catégorique que vous, dans le sens où si d'aventure vous veniez à apprendre que les taux d'intérêt allaient monter en flèche, je pense que vous auriez l'intelligence d'anticiper ce fait et d'emprunter à un taux très bas à l'instant T pour effectivement compenser les travaux à faire sur l'année suivante.
Non mais ça c'est un reproche qui est donné depuis 2014. Depuis 2014, on nous dit que les taux vont remonter. Pas plus tard que cet après-midi, parce que je l'ai dit en commission finance, mais je vais encore le répéter. Tous les jours, je vous dis bien tous les jours, je regarde l'évolution des taux. Et on est encore sur une indication de baisse des taux.
Donc, je n'ai pas dit le contraire.
Non. Mais l'objectif d'emprunter pour emprunter, c'est la logique un peu du surendettement aussi à la fin. Donc, on souhaite emprunter ce dont on a réellement besoin. Ensuite, on prévoit 57 650 euros de subvention, car ce montant est connu à ce jour. Mais nous espérons que cette somme soit bien plus importante. Et je pense que sur ce sujet, on peut avoir l'unanimité du Conseil sur l'acquisition de subventions bien plus importantes. Les participations financières, les dotations et les travaux de compte tiers. Au niveau de la section d'investissement 2019, nous n'avons pas prévu de cession immobilière. Le budget donc s'équilibre, je l'ai dit, et un autofinancement prévisionnel qui augmente de presque 90 000 euros. Donc soit un autofinancement d'1 270 580 euros et 8 centimes. Donc vous voyez un graphique projeté concernant l'encours de la dette et l'investissement de la commune depuis 2013. Donc, je ne pense pas que ça a besoin d'appel, de commentaires particuliers, hormis le fait d'attirer l'attention que les données 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 se sont déréalisées et 2019, c'est un prévisionnel. Donc, ce qui confirme que nous sommes dans une que notre commune est moins que les habitants de notre commune sont moins endettés que les moyennes que la moyenne des habitants qui habitent dans une commune de la même strate. Investissement donc 2019, le principal projet d'à peu près de financement de cette tranche, 2 200 000 euros pour la construction d'une cuisine centrale, du réfectoire qui sera à l'usage donc de la maternelle et de l'élémentaire Paul Bert, et la programmation aussi de la reconstruction de l'école maternelle Paul Bert. Aussi, la rénovation, mise en sécurité, l'extension de réseaux de vidéosurveillance, il y aura une délibération après, l'éclairage public, donc 200 000 euros, et le génie civil, donc qui correspond également aux travaux annexes, mais importants pour le changement d'éclairage public, donc à 100 000 euros, donc 300 000 euros prévus pour cette année pour la rénovation des candélabres et des différentes ampoules pour un passage à l'éclairage LED, qui, je le rappelle, a depuis 2014, parce qu'il y a l'effet qui a déjà été commencé sous le mandat précédent, mais qui joue de manière plus importante, parce qu'on était sur une fluctuation très faible, mais on est sur une baisse de 30% de la consommation au niveau des kilowattheures de l'éclairage public. Ensuite, l'extension du bâtiment de la police. Non, mais ce qui est à l'écran, l'extension du bâtiment de la police municipale. Donc pour 30 000 euros, qui est réalisé en partie par les ouvriers municipaux, et qui est un excellent travail. L'extension du columbarium pour 8 000 euros. La rénovation, mais surtout la mise en sécurité de l'église Saint-Luc, qui a été votée lors du dernier conseil de l'année 2018, donc pour 468 000 euros. Et la création, ou plutôt... comment dire, la réalisation propre et nette d'un parking pour la salle Valeria Borza, mais plus largement pour le site Ferry, donc également pour les autres clubs sportifs qui sont pour l'avant-garde et les clubs qui pratiquent leur discipline dans la salle Denis Morel. Ensuite, le cheminement du sentier du Rillet, qui est prévu cette année, donc pour à peu près 14 700 euros, et la climatisation dans le restaurant de l'école maternelle Marie Curie. Avec la rénovation des ateliers municipaux, enfin rénovation, on n'est plus sur une mise en sécurité, une mise aux normes, et donc quelque chose qui n'est pas totalement du fait de la commune, mais le passage en fibre optique. Il faut savoir que 36% de la commune a été couvert au 1er mars, donc ça rentre encore en avancée. Et pour 2020, tout devrait être effectué sans problème technique, donc, c'est-à-dire si le riverain empêche la pose de boîtier, mais Orange, qui est le délégataire de la MEL pour notre commune, s'est engagé à ce que pour 2020, l'ensemble de la couverture fibre soit faite.
Y a-t-il des questions particulières, des commentaires ? Oui, madame ?